Rencontre avec Normal d'Olivier Babinet. J'ai d'abord rencontré Normal d'Olivier Babinet avec mes élèves au festival Premier Plan à Angers. Avec mes élèves, on a tout de suite adoré ce portrait d'une jeune fille et d'un père cabossé par la vie. Le père est atteint d'une sclérose en plaques, la mère est morte dans un accident de moto et qui tente de mener une vie normale alors que c'est en train de devenir impossible et que les services sociaux s'en mêlent avec l'annonce de la visite d'une assistante sociale.
Lucie n'est pas comme les gens normaux. Elle doit penser à tout tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait pour l'argent? Comment on enlève les taches dans un tapis?
Nous avons été touchés par le ton entre fantastique, comédie et drame qui permet de dire la violence des rapports humains et des situations en se plaçant, comme le dit le réalisateur Olivier Babinet, à 10 cm au-dessus du sol. Mes élèves de la Nouvelle Chance au Mans ont réalisé une interview d'Olivier Babinet à Premier Plan. Mais il manquait le son. Alors on a voulu le revoir, parce qu'on avait des questions à lui poser. Olivier Babinet est venu à La Flèche dans le cadre d'Anou le Kid 2, un festival organisé par des élèves du lycée Estournel de Constant, majoritairement issus de l'option cinéma, l'association Graines d'Images et le cinéma Le Kid.
Pour ceux qui ne le savaient pas ou ceux qui le savaient, la pièce c'est une adaptation, le film c'est une adaptation de la pièce Le Monstre du Couloir. Et on se demandait qu'est-ce qui vous a plu pour avoir envie d'adapter cette pièce.
Donc c'est une pièce d'un auteur anglais que m'ont fait lire Juliette et Fabien, qui sont les deux co-scénaristes du film avec moi. Ils avaient acheté les droits de cette pièce de théâtre. Et après avoir vu mon film Swagger, qui est un film que j'ai fait avant, qui est un documentaire, ils ont pensé à moi, quoi. Ils se sont dit, tiens, on ne se connaissait pas, ils se sont dit, tiens, on lui ferait bien lire cette pièce dont on a acheté les droits, parce qu'ils cherchaient quelqu'un pour faire l'adaptation. Je pense que ce qui m'a plu, bon, déjà, c'est l'humour des personnages et la fantaisie qu'il y avait dans la pièce, mais aussi parce que moi, mon film, donc le film qu'ils avaient vu, qui s'appelle Swagger, c'était un film documentaire que j'ai fait à Aulnay-sous-Bois parce que j'ai fait beaucoup d'ateliers avec des adolescents pendant 2 ans à Aulnay. Donc je leur apprenais à faire des films avec les moyens du bord, du collège. On a fait des films de science-fiction, des films fantastiques. Et puis j'ai fini par faire un long-métrage sur eux. Et en fait, l'auteur de la pièce anglaise, cette pièce, Le Monstre du Couloir, est issu d'ateliers qu'il a fait avec des adolescents qu'on appelle des jeunes aidants. Parce que c'est des adolescents ou des enfants qui ont beaucoup de responsabilités sur les épaules parce qu'ils vivent avec un parent malade ou toxicomane. L'auteur, David, avait dit à ces adolescents, je vous préviens, on va faire des ateliers ensemble, des ateliers d'écriture, mais moi, quand on aura fini, j'écrirai une pièce de théâtre. Et vous n'aurez pas votre mot à dire, ça sera ma pièce, je vais m'inspirer de vos histoires, mais je veux juste vous prévenir. Et les jeunes lui ont dit, d'accord, mais à deux conditions, on veut que ça soit drôle et qu'on n'ait pas pitié de nous. Et moi, je trouve que c'était un formidable postulat de départ et qui ressemblait un peu à ce que j'avais fait à Aulnay, puisque j'avais passé 2 ans à faire des ateliers, puis j'avais fini par me dire, tiens, je vais faire un film sur ces adolescents, les jeunes de cité, avec tous les clichés que ça comporte, et je vais essayer de rentrer dans leur tête et je vais montrer... et puis je ne vais pas les réduire à l'endroit où ils ont grandi, je ne vais pas les réduire à leurs conditions sociales, et ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes à la maison, qu'on n'a pas de fric pour remplir le frigo à partir du 15 du mois, qu'on doit être réduit à ça, et que ces gamins, ils ont un imaginaire, ils ont de l'ambition, ils sont amoureux, ils ont de l'humour, voilà, donc c'est ça qui m'a donné envie, tout ça qui m'a donné envie d'adapter cette pièce.
On s'est aussi demandé, parce que pour ceux qui l'ont vu, enfin j'espère, dans le film il y a comme un aspect avec la photographie, la mise en scène qui fait un peu féerique, alors que c'est un film très réaliste, et on se demandait ce qui vous inspire en général dans l'art ou dans la vie de tous les jours, ce qui vous inspire pour avoir fait les images qu'on a pu voir dans le film.
Alors là. Ben, y a plein, y a beaucoup de choses qui m'inspirent, comme nous tous. Et après, j'ai un goût pour le fantastique depuis que je suis petit, parce que comme plein d'enfants de mon âge, j'ai vu Star Wars quand j'étais enfant, et ça m'a énormément plu. Et j'ai vécu dans Star Wars pendant des années, j'avais du mal à faire la différence entre Star Wars et la réalité, je pense. Donc peut-être que ça vient de là, je ne sais pas. Mais non, mais j'aime bien, moi j'aime bien le fantastique et le surréalisme. J'aime bien, ça vous connaissez peut-être pas, mais il y a un réalisateur qui s'appelle Louis Buñuel, qui est le réalisateur surréaliste. Et moi, quand je suis arrivé à Paris, j'avais 18 ans, je vivais chez mon frère, et un soir, à la télé, j'ai vu un film de Buñuel, par hasard. Et dans une scène, il y a un acteur, qui est le personnage, qui est dans son lit, en train de lire. Il est en pyjama, couché, et tout d'un coup, il y a une autruche qui traverse la pièce. Et Buñuel, il filme ça comme si tout était normal. C'est-à-dire, le type n'est pas en train de dire « Oh, une autruche dans ma chambre !» Non, il continue à lire. Et là, quand j'ai vu ça, je me dis « Ah, mais c'est ça que j'ai envie de faire dans la vie !» Parce que je pense que moi, j'avais beaucoup de problèmes avec l'école. J'ai arrêté avant le bac, j'aimais pas l'école. Et de voir ça, je me suis dit, tiens, au cinéma, on peut inventer ses propres règles. On peut inventer un monde, finalement, qui tout est possible. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire des films. Mais après, j'ai baigné dans la culture du cinéma américain, comme nous tous. Je regarde des films de zombies, et j'ai vu E.T. quand j'étais petit, Mais là, ce qui était assez génial pour moi avec ce film, c'est que comme c'est une adolescente de 15 ans et qu'on c'est son imaginaire, bah, ça me permettait de partir dans le cinéma de genre et d'aller, puisque les adolescents de cet âge-là, et bah, ils baignent dans cette culture américaine. Quoi, c'est la majorité des choses qu'ils regardent. Justine, qui joue Lucie, elle connaît pas du tout le cinéma français. Et elle a plein de préjugés sur le cinéma français. Elle regarde que des séries américaines. Et elle savait même pas qui était Benoît Poelvoorde. Elle savait pas qui c'était. Ce qui moi, je trouvais marrant et qui m'a plu. D'ailleurs, la première fois quand je les ai présentés, j'ai dit à Benoît, tu sais, Benoît, elle s'est même pas quittée. Hein. Elle a jamais entendu parler de toi. Et lui, il dit, ah quoi, t'as grandi dans une grotte Mais ça me plaisait parce que ça le faisait un peu redescendre de son... Parce que c'est quand même... Poelvoorde, c'est un sacré type, il a quand même un caractère. Et puis, il a l'habitude qu'on le reconnaisse. C'est-à-dire, quand moi, je me promène, on s'est promené à Lyon pour l'avant-première, tout le monde le reconnaît, tout le monde lui parle, et puis il parle à tout le monde. Mais tout d'un coup, une fille de Justine, à l'époque, avait 16 ans, je crois, bah, elle ne savait pas qui c'était. Mais c'était bien aussi, moi, c'est ce que je recherchais, quelqu'un qui le fasse redescendre un peu sur Terre, et elle n'était pas impressionnée, du coup. Elle était... Et puis comme elle joue de manière très naturelle, très premier degré, lui, ça l'a aidé. Il l'a beaucoup aidé, mais elle l'a beaucoup aidé aussi.
Et justement, ça vous a fait... Enfin, c'était comment de tourner avec un acteur comme lui ?
C'était fatigant. Mais c'était génial aussi, parce que moi, Poelvoorde... Je l'ai vu pour la première fois dans le premier film qu'il a fait, qui s'est arrivé près de chez vous, qui est un film incroyable, où il crève l'écran, c'est un film qui fait réfléchir à nos limites en termes d'humour noir, de quoi on peut rire ou pas. Et puis tout d'un coup, là, les Belges, ils franchissaient tous les tabous. Et donc c'est un film qui m'a beaucoup marqué, qui est vraiment... film très important, même Scorsese le reconnaît, quoi. Voilà, c'est pas n'importe quoi, c'est arrivé près de chez vous. Mais moi, pour moi, Poelvoorde, pendant longtemps, je le voyais, puis être son personnage, il est très, très extraverti, sur les plateaux télé, il fout le bordel. Donc moi, pendant longtemps, je me disais, moi, je pourrais pas tourner avec un type comme ça. C'était vraiment le repoussoir, Poelvoorde, pour moi, dans ma tête. Je l'adorais, mais je me disais, j'arriverais pas à... Il va pas m'écouter, quoi. Il va pas. Et puis moi, j'aime bien les films où on rentre dans un monde qui a ses propres règles et on oublie les gens, les acteurs et les actrices. On oublie qu'ils sont connus ou pas. Ce qui compte, c'est, je trouve, de rentrer dans un monde auquel on croit. Et Poelvoorde, c'est pas évident de l'oublier. Mais finalement, je l'ai rencontré c'est parce que il a accepté de me rencontrer. D'abord, il m'a bisuté, il s'est un peu foutu de ma gueule. Moi, je m'appelle donc Olivier Babinet. Il me dit ah, Babinet, quoi. Il se trompait sur mon nom. Il avait un peu une petite cour parce qu'il était en promo, donc il avait sa maquilleuse, sa coiffeuse. Donc il commence à me chambrer un peu comme ça. Mais vous avez réalisé des films, je crois que c'était mon premier film, alors que c'est mon quatrième. Il n'avait pas lu le scénario, mais j'avais tourné avec Gustave Carverne, et c'est un copain à lui, donc il avait accepté de me rencontrer pour ça. Mais en fait, passé ce moment donc, où il me chambrait, où j'avais... Bon, moi, je m'en foutais, il pouvait se moquer un peu de moi, c'est pas très grave. Mais après, on s'est assis, on a parlé, qu'on était tous les deux, et j'ai eu accès tout d'un coup au vrai type derrière ça. Il a tombé le masque. Et j'avais regardé plein d'interviews, et j'avais vu qu'il y avait certaines interviews où il disait « j'en ai marre de faire le clown, j'en ai marre de... » Et on a passé 4 heures ensemble, on a bu 12 whisky. Heureusement, je suis grand, donc je savais qu'il fallait que je tienne le coup, quoi. Mais il m'a parlé de son enfance, il a été des fois en famille d'accueil, il vient d'un milieu où il n'y avait pas de fric à la maison. Et tout ça a fait que je me suis dit, tiens, il va m'écouter, on va pouvoir se parler. Je dis que c'était fatigant en film, c'était aussi génial, mais c'est, ouais, il faut être en forme. Et puis il est extrêmement intelligent et extrêmement sensible. Donc il sent tout de suite... tu vois, une fois au début, au bout de quelques jours, on dirige une scène et puis j'étais pas très à l'aise avec un plan. Quoi. Au fond, je savais pas. Des fois, quand tu fais des films, tu sais pas. Faut donner l'impression que tu sais, mais il y a des moments de doute. Et donc, j'étais là, et puis il se tourne vers moi, il me dit « Qu'est-ce que t'as ?» Il me regarde comme ça. « Oh non, t'es un peine à jouir !» Comme je sais plus qui, une réalisatrice avec qui il a tourné. Il m'a regardé comme ça, c'est-à-dire qu'il a vu au fond de mon âme, il a vu tous mes doutes et tout. Et je me suis dit, putain, mais va falloir tenir 12 semaines et le mec, il va me scanner comme ça, il va rien laisser passer. Donc, bon. Mais après, il est célèbre pour de temps en temps se péter un petit câble ou s'énerver. Et c'est arrivé deux fois. Et en fait, le chef opérateur avec qui j'ai travaillé, qui est un Belge, qui a fait plusieurs films avec lui, il m'a dit, écoute, t'es le seul que j'ai vu, t'as réussi à ce qu'il quitte pas le plateau. Parce que quand il a son mouvement d'humeur, des fois il se barre. Et tu sais, ça coûte hyper cher de faire un film. T'as quand même une équipe de 60 personnes. Chaque heure coûte cher. Donc tout d'un coup, quand t'as un acteur principal qui dit, je me barre, c'est un peu terrible, quoi. Tu dois faire des sacrifices parce que tu sais que tu pourras pas retourner les scènes, tu pourras pas avoir des heures sup. Mais moi, apparemment, j'ai réussi en restant calme. C'est-à-dire qu'il s'énervait, et moi, plus il s'énervait, plus je descendais comme ça. Et donc, il a accepté de faire ce que je voulais. Mais là, je dis ça, c'est une fois. Mais sinon, c'était très agréable de travailler avec lui, parce que c'est un extraordinaire acteur, et il écoutait tout ce que je lui disais, en fait. Et il me disait, tu sais, j'ai fait plein de films où, en fait, ils ne savent pas ce qu'ils font. Des grosses comédies, et ils disent, ah, vas-y, Benoît, c'est marrant, et puis ils le laissent faire n'importe quoi. Ils le laissent en roue libre, et c'est un génie de la roue libre, hein, Paul Vorne, pas de problème. Mais moi, on a écrit ce truc, virgule après virgule, pendant des années, on a bossé, trouvé le pognon, les commissions, les trucs. Donc je sais que là, à ce moment-là, des fois, je lui dis, non, mais là, il peut pas être comme ça. Il est abattu, il ne fait plus le fanfaron à ce moment de l'histoire parce qu'il s'est passé ici. Et là, oui, bien sûr. Et tac, en deux secondes, il module et il te fait... Il va dans l'émotion, quoi. C'est un très, très grand acteur. Et j'ai même envie de rebosser avec lui. Tu vois, c'était fatigant, mais... Pas tous les ans, mais... Je vais me reposer un ou deux ans, et pourquoi pas rebosser avec lui.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Ah. Vous avez posé la question au réalisateur, pourquoi ce choix-là? Maintenant, moi, je vous pose la question à vous, les jeunes. Pourquoi le choix de ce film? Qu'est-ce qui vous a accroché dans ce film?
Maxime.
Moi, c'était surtout d'abord l'esthétique. J'ai beaucoup aimé l'esthétique et elle me correspond, donc voilà. Et sinon, j'ai bien aimé la vision, enfin, le fait qu'on parle de sujets délicats sans... qu'on cherche à s'apitoyer. C'était, enfin, les personnages, ils gardaient toute leur humanité sans juste être des martyrs.
Alors, moi, ce que j'ai apprécié, c'était l'esthétique aussi, comme l'a dit Charlie.
Et aussi la relation qu'on peut observer avec le père et la fille. Et en fait, on n'a pas tous cette relation-là. Et de voir qu'il y en a qui peuvent avoir des relations différentes en fait, avec leurs parents, j'ai trouvé ça touchant. En fait. Ça apporte un regard différent.
Moi, je voulais savoir combien de temps vous aviez mis à tourner ce film, parce qu'il y a plein de détails, plusieurs décors différents. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit que ça devait être long. Du coup, je voulais savoir.
Alors, j'ai jamais eu autant d'argent pour faire un film. Non, parce que ça coûte cher les films. Mais bon, c'est... j'ai pas eu l'argent de Astérix. Ça coûte beaucoup plus cher. Mais j'ai eu plus de jours de tournage que d'habitude. Mais alors, combien? Moi, je dirais, je sais pas. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 35 jours, un truc comme ça. Je dirais ça comme ça. Après, c'est variable, tu vois, les tournages. Je sais pas si tu as vu Playtime de Jacques Tati, qui est un film des années 60. Il a tourné pendant un an. Tu vois, il y a des films où on tourne beaucoup plus. Kichiche, il tourne très longtemps, avec plein de caméras. Moi, j'ai déjà fait des films en 4 semaines. Donc là, il y avait quand même il y avait suffisamment d'argent pour faire ce qui était écrit et le temps de le faire. Par contre, pour revenir un tout petit peu avec l'anecdote de quand Benoît s'est énervé, c'est quand je lui ai demandé de danser. Il y a une scène où il danse à un moment quand il range avec sa fille. Et dans le scénario, il ne dansait pas. Et je lui dis, j'aimerais bien, je suis pas complètement sûr de mon idée, mais j'aimerais bien que pendant ce dialogue vous dansiez tous les deux sur un morceau de punk rock, puisque toi t'écoutes du punk rock et c'est la musique que t'écoutes quoi. Et là il s'énerve, il dit quoi, mais j'aurais jamais accepté si on m'avait dit que il y avait de la danse. Donc il s'énerve, il veut pas le faire. Et c'est vrai que c'était une scène très dialoguée, assez importante et tout. Donc il me dit, et puis bon, d'un moment, il se calme, il me dit, on ne peut pas faire les deux. Mais je lui dis, ben non, parce que c'est-à-dire que j'ai des jours de tournage et tout, mais je ne peux pas non plus me permettre de tourner deux fois la même scène, une où il danse ou une où il ne danse pas. Parce que si je fais ça, je sais que je ne vais pas pouvoir faire d'autres choses. Donc à la fois, j'ai pu faire tout ce qui était dans le scénario, mais on ne pouvait pas passer une journée à improviser. Ou quoi. Tu vois, c'est quand même très, très préparé en amont. La scène du concert, par exemple, ou la scène de poursuite avec la mobilette et tout ça, l'assistant de décor, il a modélisé, c'est un circuit automobile où on fait des essais automobiles, donc on savait qu'on était tranquille, on est tranquille, on n'a pas à bloquer la circulation, on peut tourner, c'est pratique. Et l'assistant, il a modélisé en 3D à partir de Google Maps tout le parcours, il a mis une voiture en 3D, les personnages, pour dire qu'on préparait beaucoup pour être sûr, et puis après on a ensemble, parce qu'une fois qu'il a modélisé, on peut mettre tous les axes de caméra, donc on était très précis sur ce qu'on devait ramener, parce que tu vois, il n'y avait pas le loisir de ramener autre chose. Et pareil, la scène du concert, tout a été fait en 3D, les figurants, les trucs, les angles de caméra, quelque chose qui, je pense, il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'était dans Le Piège de Cristal, Bruce Willis, ou qu'on faisait ça. Là, les outils permettent de démocratiser qu'un film indépendant français, avec un budget raisonnable qui est le mien, on puisse faire ça. Mais on prépare, tu vois, pour être sûr que... ouais, il n'y a pas non plus un luxe de temps phénoménal. Et je sais pas si on me redonnera un jour autant d'argent.
Alors, pourquoi Shell et pourquoi des pylônes partout? Ça fait comme ça, et les trucs les pylônes, électriques,
ouais.
Là.
Ouais.
Parce que moi, ça fait la troisième fois que je le vois, et donc, voilà.
Alors, ce qui est marrant, c'est une petite anecdote, mais on est allé montrer... Je suis allé à Metz, parce que Justine, donc, qui joue le rôle de Lucie, elle vient de Metz et toute sa famille venait le voir au cinéma de Metz, se déplaçait, et donc elle m'a dit, tu veux pas venir, parce qu'elle était très impressionnée de montrer le film à sa famille. Et j'ai parlé avec son grand-père, et son grand-père, son métier, c'était de monter des pylônes électriques. Donc c'est assez marrant. Lui, il montait, il y a un hélicoptère qui les aide à mettre les trucs. Donc ça m'a fait quelque chose. Mais moi, en fait, je sais pas pourquoi, j'ai une passion pour les pylônes électriques depuis très longtemps. C'est un copain qui m'a dit ça, c'est-à-dire que j'ai déjà filmé des pylônes électriques J'ai fait un clip il y a longtemps pour le Rita Mitsuko où il y avait un pylône électrique. Alors, qu'est-ce qui me fascine dans les pylônes électriques? C'est graphique. Et c'est en même temps un peu effrayant parce que c'est la trace de l'homme sur la nature. C'est ce qui nous permet en même temps de vivre, de prendre des douches chaudes, qui est un luxe qui peut disparaître. Hein. Je ne sais pas si vous avez eu Walking Dead, mais il n'y a plus d'eau chaude. Hein. Il faut au moins qu'ils prennent une douche au bout de 15 épisodes. Et ils sont vraiment contents. Voilà, les pylônes électriques. Mais on a fait beaucoup de repérages dans la région parisienne, puisqu'on avait eu une aide de la région Île-de-France. On avait essayé avant en Lorraine. Moi, j'ai grandi à Strasbourg, je voulais tourner dans l'Est de la France, mais ils ne nous ont pas donné l'argent. Et finalement, on l'a eu en Île-de-France. Donc, repérage tout autour. Et un jour, le repéreur ramène des photos de Shell. Et ça me plaît. Alors, ça me plaît, Shell. Il ramène des photos. C'est un drôle d'endroit, Shell. Quoi. C'est des endroits où on ne s'arrête pas, normalement. Non, mais il y en a plein comme ça. Non, mais c'est fou de s'arrêter à un endroit où on ne s'arrête pas. Parce que, en fait, Donc, il y a des pylônes électriques à Shell. C'est ça qui me frappe. C'est qu'il y a du vide entre les maisons, entre les zones pavillonnaires. Il y a du vide et il y a des pylônes. Je pense que toutes les lignes qui alimentent Paris passent à Shell. Donc, c'est vraiment des champs de pylônes. Donc, ça crée un environnement un peu particulier. C'est peut-être un peu fantastique déjà. Quoi. Pour moi, le pylône, c'est déjà un truc de science-fiction. Quoi. C'est notre réalité, on ne les voit plus, mais ils sont là. Il y a des pylônes électriques sur Terre quoi, qui sont utiles pour nous, mais il y a des ondes, je ne sais pas. Mais donc, c'est graphique. Ce qui me plaisait à Shell, c'est le vide. Parce que je voulais que Lucie, elle grandisse dans un endroit où il ne se passe pas grand-chose. Et parce que je trouve que quand on grandit dans un endroit où il ne se passe pas grand-chose, quand je dis il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas 10 000 boîtes de nuit, y a pas, les jeunes ils traînent... à l'abribus, au carouage ou dans dans les parcs. Mais du coup, quand on grandit dans un endroit comme ça où il n'y a pas grand-chose, on peut développer un imaginaire. Comme c'est une fille qui a développé un imaginaire, je voulais qu'elle ait grandi dans un endroit où il y avait du vide. Après, dans le scénario, il montait en haut d'une grue, Étienne. Et puis le type dont elle parle au début, qui s'est soi-disant suicidé, il était monté en haut d'une grue. Grâce à Shell, j'ai transformé la grue en pylône électrique. Parce que je me disais, c'est encore mieux. Et puis, c'est plus dangereux, en plus, de monter en haut d'un pylône électrique. Et voilà, est-ce que j'ai répondu à la question? Ouais. Et on a choisi le format, parce que c'est un format un peu particulier, un peu carré. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'image, elle n'est pas... C'est le format qui était standard avant, et on l'a choisi notamment à cause des pylônes. Pour pouvoir voir les pylônes en entier. Et aussi parce que c'est un format un peu comme une photo et que je voulais que ce soit le portrait d'une jeune fille. Donc un côté un peu documentaire, un peu. Ça a amené du réalisme pour mieux décoller de la réalité.
La vie de Lucie et son père, c'est comme une promenade sur un lac gelé. La glace est tellement solide qu'on peut rouler dessus en camion. Alors Lucie oublie qu'il y a un grand lac sombre sous leurs pieds.
Normal passe à partir de ce mercredi à 20h30 au cinéma Le Kid à La Flèche. La prise de son de la rencontre avec les élèves du projet À nous le Kid et les spectateurs a été réalisée par Paco Lasco et Romane Foy. C'était notre rencontre avec Normal d'Olivier Babinet. Et courez voir Normal !